Merci, prions ensemble. Dieu éternel, tu es le Dieu vivant, le Créateur, le seul Dieu, et nous sommes reconnaissants. Merci que tu n'es pas resté là au loin, au-delà des nuages, dans l'infini. Tu t'es approché de nous, tu es notre consolation. Ton Fils Jésus révèle parfaitement qui tu es. Et tu envoies ton esprit, le consolateur, dans notre cœur. Et aujourd'hui, nous voulons te demander simplement, humblement, que nous puissions être éclairés vis-à-vis de ta parole par la vérité, que nous puissions te connaître davantage, mais aussi être poussés, guidés dans ta sagesse pour vivre cette vie que tu mets devant nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Voilà, bonjour à tout le monde que je n'ai pas eu le temps de saluer à l'entrée, content de vous voir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet dans lequel on doit tous faire des progrès, mais dont on ne parle pas très souvent. Il s'agit de l'amitié. Alors, ce n'est pas une critique ou un reproche personnel. Moi, je me sens bien aimé et bien entouré par vous. Merci beaucoup. Mais il faut recevoir le message d'aujourd'hui, pas comme un reproche ou une plainte de ma part, mais un encouragement généralisé pour que nous puissions chacun, pour notre part, prendre à cœur de développer des amitiés. Que nous ayons beaucoup d'amis ou très peu, nous pouvons tous être de meilleurs amis. Cette année, d'ailleurs, pourrait être celle où nous approfondissons nos amitiés, où nous nous faisons de nouveaux amis, ou que ceux qui sont déjà nos amis, on les aime encore davantage. Il me semble que dans les grandes lignes, on a de la famille, bien entendu, on a une place importante pour notre famille, nos relations familiales. Et puis il y a des collègues, et vous n'avez pas le même privilège que moi d'avoir que des collègues chrétiens. Vous avez des collègues, et puis parfois on ne s'entend pas très bien avec les collègues. Mais à part quelques exceptions, on n'est pas très fort pour l'amitié. Je réfléchissais à ceux que je connais qui sont vraiment de bons amis, pas mes amis, mais je veux dire en général des amis avec beaucoup de gens. Et peut-être qu'on se concentre trop sur le travail et sur la famille, et trop peu sur ces autres relations que nous pouvons développer, qui sont ceux de l'amitié. Voilà, petit questionnaire pour que chacun réfléchisse par rapport à l'amitié. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un oublie, un ami oublie que c'est ton anniversaire? Ou que tu veux voir un ami pour lui parler de toi, et puis il ne fait que parler de lui-même. Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu veux voir ton ami et puis elle est juste trop occupée et elle ne peut pas te voir? Alors, si tes amis t'ont fait ça, il est certain que toi aussi tu l'as fait aux autres à ton tour, sans le savoir, sans le savoir. Et donc, nous pouvons tous être de meilleurs amis vis-à-vis des autres. On va réfléchir ensemble à ce que la Bible nous dit sur l'amitié. Il y a beaucoup de données. On va essayer de condenser ça. J'ai choisi quelques versets clés. Mais on va commencer par le plus important. Ce n'est pas le tout du sujet, mais le plus important, c'est l'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu. En tant que chrétien, notre relation avec Dieu peut être décrite de différentes manières. Vous êtes au courant de cela ? On peut dire nous sommes ses enfants. Dieu est notre Père et il a fait de nous, en Christ, ses enfants bien-aimés, ses enfants par adoption. Nous sommes aussi, quelque part, sa belle-fille parce que nous avons été choisis par son Fils. Nous sommes choisis par Dieu pour être l'épouse de son Fils. Nous sommes ses sujets dans le sens où nous sommes dans le royaume de Dieu et que Dieu est notre roi, mais nous sommes aussi amis du roi. Amis du roi. À l'époque du roi David, dans l'Ancien Testament, il y avait des généraux, il y avait des chefs de tribus, il y avait des administrateurs et des conseillers. À certains moments dans la Bible, il y a des descriptions de ceux qui étaient dans la cour du roi et leur rôle auprès du roi David. Et puis il est dit par rapport à un homme qui s'appelait Hushaï, l'archien, il dit simplement, c'était l'ami du roi. C'était l'ami du roi, le confident, le premier ami. Pas un guerrier ou un conseiller ou un général de guerre, mais un ami. Mais Dieu nous aime de cet amour-là, un amour philanthropique qui fait de nous ses amis. C'est un grand privilège d'être serviteur de Dieu, mais un privilège encore plus grand d'être ami du roi. Voici comment Jésus le dit envers ses disciples en Jean 15, verset 15, vous l'avez sous les yeux. Jean 15, verset 15, il dit ceci à ses disciples. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Le mot serviteur, là, littéralement, est esclave. Ce ne sont plus des esclaves qui doivent juste faire leur travail pour le maître, sans rien comprendre. Mais il élève les disciples à être des gens informés sur ses projets et informés sur lui, proches de lui, ses amis. Et donc l'ami auquel nous aspirons tous, c'est Christ. Je pense que lorsqu'on a dans notre cœur l'envie de quelqu'un qui nous comprenne et qui s'intéresse à nous et qui nous écoute, en fait, cela ne peut trouver vraiment sa réponse qu'en Christ, l'ami suprême. Quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Et ce que nous verrons chez les bons amis aujourd'hui est vrai pour Christ. C'est lui la clé. Mais il y a toujours un besoin pour que nous ayons des amis entre nous, sur terre. Et les différents versets que nous allons voir aujourd'hui parlent d'amitié humaine entre gens et pas seulement l'amitié avec Dieu. En réfléchissant, en préparant cette prédication, je me suis dit, est-ce que l'amitié est plus ou moins forte que la communion fraternelle? Vous avez réfléchi à ça? Est-ce que l'amitié est plus forte que la communion fraternelle? Ou est-ce que la communion fraternelle est plus forte que l'amitié? Il y a certaines personnes qui diront, ben oui, l'amitié est plus forte. Nous sommes dans une sorte de vague communion, on s'entend avec les autres frères et sœurs dans l'Église. Et puis il y a des amis avec qui, les gens qu'on aime vraiment, ce sont nos amis. D'autres personnes vont dire, non, en fait, l'amitié est moindre que la communion fraternelle, parce que l'amitié est naturelle. Il y a des gens avec qui on s'entend bien, ce sont nos amis, nos potes. Et puis il y a dans l'amour fraternel, une autre sincérité. On aime ceux qui sont différents de nous parce qu'ils sont en Christ. C'est une communion spirituelle et surnaturelle, n'est-ce pas, d'aimer ceux qui sont chrétiens. C'est plus fort que de l'amitié simplement. Et en fait, en débattant, là, je n'ai pas trouvé une idée nécessairement clé, mais je pense qu'il faut simplement voir ces choses comme des choses différentes. La communion fraternelle est importante. Nous sommes enjoints de nous aimer les uns les autres dans l'Église, en tant que chrétiens. C'est une vraie responsabilité. Je n'enlève rien à cela. On doit prendre cela à cœur. Que personne aujourd'hui ne dise « Bah, je vais me concentrer sur quelques amis et puis tant pis pour l'Église ». Non. Il y a plein de versets dans la Bible, on en a lu ce matin, qui disent que nous devons avoir envers les frères et sœurs une amitié sincère, fraternelle, chaleureuse, un amour ardent, dit Pierre même. Rien de ce que je vais dire aujourd'hui n'enlève cette responsabilité vis-à-vis des frères et sœurs de l'Église. Mais l'amitié est différente. Et parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'amitié, il faut en parler. Donc c'est ce qu'on va faire. Considérons alors les marques de l'amitié. D'abord, l'amitié est fidèle. L'amitié rime avec fidélité. Nous devons être donc des amis fidèles. Regardez Proverbe 17. Alors, je me suis tourné vers le livre des Proverbes parce que c'est ce livre-là, dans l'Ancien Testament, qui parle le plus de l'amitié. Et ce verset est la clé pour commencer le portrait de l'amitié. Proverbe 17:17. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Vous voyez ce qu'il est en train de dire, là. Un ami aime tout le temps. Votre situation pourrait changer. Tu pourrais changer d'église. Et les personnes avec qui tu es en communion fraternelle, ben ça change, parce que tu n'es plus dans la même église. Tu pourrais changer de boulot, ou de club de sport. Et alors, ta relation avec tes collègues ou avec tes anciens copains du sport, ça change. Mais tes amis restent les mêmes à travers les différentes circonstances. Il y a des situations aussi qui sont décrites dans le livre des Proverbes où on perd notre richesse. Et puis on perd nos compagnons qui s'intéressaient à nous parce qu'on était riches. Mais vos amis se démarquent d'eux parce qu'ils sont toujours vos amis. Même quand ça va mal. Même quand ça va mal. L'ami aime en toutes circonstances, même dans le malheur. Tu perds ta fortune, tes amis sont toujours là, s'ils sont de vrais amis. Et ça va dans l'autre sens aussi. Ce qui vous attire chez un ami, ce n'est pas sa situation. Du moins, je l'espère. Vous n'êtes pas ami avec quelqu'un parce qu'ils sont riches, parce qu'il ou elle est riche. Ce qui généralement nous intéresse chez notre ami, c'est son caractère ou ses intérêts. On veut une amitié avec quelqu'un, on s'engage envers un ami parce que nous avons des choses en commun. Et que nous voyons aussi que il ou elle voit les choses de la même manière que nous. Ça nous intéresse, sa perspective, compatible avec la nôtre sur la vie. Allons un peu plus loin, Proverbes chapitre 18. Regardez cela, même page dans votre Bible, verset 24. « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. » Là, il y a un contraste. En disant, n'ayez pas juste beaucoup de compagnons de route, de collègues, de connaissances, mais quelque chose de plus proche que cela, des amis, qui sont si proches qu'on peut même les décrire comme plus proches que des frères. Et le sens de frère, ici, ce n'est pas le sens de frère spirituel, mais c'est des frères biologiques. Très souvent, nos frères spirituels sont plus proches que nos frères de sang. Et ça nous amène à revoir un peu notre vision de nos relations. C'est vrai que le Seigneur nous appelle à nous occuper de notre famille, à honorer nos parents, à pourvoir pour nos enfants ou pour les veuves dans notre famille. Ce sont nos responsabilités, obéir à nos parents, etc. Être présent dans notre famille est important. Mais la famille biologique n'est pas suprême dans le royaume de Dieu. La famille biologique n'est pas suprême. Aimer son conjoint, ses enfants et ses parents, ce n'est pas assez. Et je pense que nous avons une perspective belle sur la famille où on s'occupe beaucoup de notre famille biologique, mais peut-être aux dépens d'une autre réalité spirituelle qui est aussi importante pour Dieu. Nous devons chercher à être ses amis qui sont plus forts que des frères, plus proches que des frères. Pas pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas être ami pour tout le monde, mais au moins pour quelqu'un, qu'il puisse dire de nous ce que ce verset dit, sont plus proches que des frères. Et Proverbe 27, verset 10, va dans le même sens, appuie ce point, Proverbe 27, verset 10. « N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand tu es dans la détresse, tu ne dois pas aller voyager jusque là où ton frère habite pour le voir, pour trouver en ton frère ton réconfort. Tu devrais plutôt te tourner vers ton ami qui est proche, ton voisin qui est proche de toi. De même, lorsque nos amis vivent loin, en fait, on devrait se dire, je sais que je peux être en contact avec mes amis qui vivent en Amérique, ou au Royaume-Uni, ou en Espagne. Mais il vaut mieux avoir des amis qui sont ici, n'est-ce pas, qui sont proches. Des chrétiens sur place, qui vont alors pouvoir être des amis fidèles, de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. Ça, c'est la fidélité de l'amitié. Faites-vous des amis pour vous-même, avoir de la famille ne suffit pas. On le voit d'ailleurs avec un exemple dans l'Ancien Testament de David et Jonathan. David et Jonathan, des grands amis, ce n'était pas sexuel, c'était une amitié entre hommes, mais c'est de l'amitié plutôt que de la famille. Ce qui est intéressant, c'est en fait que David et Jonathan, ils étaient des beaux-frères. Ils sont devenus beaux-frères parce que David a épousé la sœur de Jonathan. Mais néanmoins, ce qui compte pour eux, c'est leur amitié. Il est dit que Jonathan trouva David, 1 Samuel 23, 16, et il fortifia sa confiance en Dieu. Vous imaginez ça ? Le roi David, celui qui a écrit les psaumes, il est proche de Dieu. Et Jonathan, son ami, va le fortifier dans le Seigneur. Et dans cette amitié, ils ont promis de garder, de prendre soin de la famille de l'autre. Leur amitié, donc, allait être plus forte que la famille. Elle n'abolissait pas la catégorie de la famille, mais elle s'ajoute aux engagements familiaux. Alors, pensons à nous maintenant, nous avons tendance à regarder autour de nous et de dire, voilà, qui sont mes amis ? Mais nous devrions plutôt nous demander, à qui pourrais-je être un ami, une amie ? Et l'amitié peut être partagée. Ce n'est pas comme un couple où, voilà, vous êtes deux. En tant qu'amis, vous êtes peut-être trois amis, quatre amis, vous pourriez ajouter un cinquième ami. Vous n'êtes pas exclusif dans l'amitié en disant, c'est mon ami, il peut être ami avec personne d'autre. L'amitié, on est content quand nos amis ont d'autres amis. Ce n'est pas comme un mariage. D'ailleurs, je dois dire quelque chose à ceux qui sont mariés. Si tu es un homme marié, ta meilleure amie doit être ton épouse. Il est logique que les autres amitiés soient avec des personnes du même sexe que toi, si tu es marié. Ça va ajouter à ton réseau d'amis. Ce n'est pas un remplacement de votre alliance de mariage. Mais c'est dangereux lorsque nous partageons notre vie et nos pensées avec une personne du sexe opposé lorsque nous sommes mariés. On peut évoquer Karl Barth, qui était un théologien suisse du siècle dernier, un protestant. Il a fait beaucoup de bien, il a fait des recherches et des écrits qui ont affirmé, par exemple, que nos croyances doivent être basées sur la Bible et pas sur nos expériences. Pas quelque chose que les théologiens disaient à l'époque. Et donc, il avait raison. Il s'est aussi opposé à Hitler. Et ce n'était pas quelque chose de facile à faire en Allemagne dans les années 30-40. Mais Karl Barth avait une assistante, Charlotte von Kirschbaum, qu'il trouvait stimulante sur le plan intellectuel. Alors, il était marié avec quelqu'un d'autre qui s'appelait Nelly, mais il avait cette assistante qui l'aidait avec ses recherches théologiques. Et cette relation-là est devenue autre chose. Voyez-vous, une fois qu'on est marié, c'est clair qu'on rencontre beaucoup de gens qui ont des qualités. Mais nous devons éviter d'en faire des amis proches du sexe opposé. En tant que célibataire, bien entendu, vous êtes plus libre. Et pour les célibataires, je vous conseille d'avoir des amis masculins et des amis féminins. Féminines. N'est-ce pas ? C'est bien si un homme ne passe pas tout son temps avec des hommes. C'est bien aussi qu'il ne passe pas tout son temps avec des femmes, mais qu'il ait des amis des deux genres. Mais, si vous êtes célibataire, ne vous approchez pas trop des personnes qui sont mariées. Vous pourriez penser, ben voilà, je suis en sécurité avec lui ou avec elle, mais ce serait en fait aller au-delà d'une certaine frontière que le Seigneur a établie. Tout cela découle de ce point de la fidélité. L'amitié est quelque chose de fidèle. L'amitié inclut de la fidélité, mais ne doit pas aller au-delà de la fidélité du mariage, au sein du mariage. Une autre dimension de l'amitié, c'est que les amis chrétiens doivent être honnêtes. Vous avez peut-être pensé que j'allais dire que les amis chrétiens doivent être fidèles et tendres, parce qu'il y a ce chant qui dit que Jésus est fidèle et tendre, mais il n'y a pas que ça dans la Bible. La Bible appuie plutôt ce point de l'honnêteté. Pourquoi ? Parce que, ben, on se parle, n'est-ce pas, quand on est amis. Les amis ne sont pas des gens qui font des choses ensemble, ce sont des gens qui se parlent. Et lorsqu'on parle à un ami, il est très important que ce qu'il nous dit, ou ce qu'elle nous dit, soit honnête, soit vrai. Proverbe 22, 11 traite de cela. 22, 11, « Celui qui aime la pureté du cœur a la grâce sur les lèvres et le roi pour ami. » Comment peut-on être ami du roi ? Ce n'est pas garanti, évidemment, qu'on va être l'ami du roi. Mais le roi qui écrit ces proverbes, le roi Salomon, disait qu'il aime ceux qui ont le cœur pur et il aime ceux qui parlent avec grâce. On peut imaginer beaucoup de gens qui flattent le roi. On peut imaginer des gens qui lui payent des compliments ou qui sont d'accord avec tout ce qu'il dit, parce que c'est le roi. Mais un ami doit être différent. Un ami du roi doit être quelqu'un qui est prêt à lui dire la vérité. Proverbe 27, toujours le même auteur, il décrit cela comme ceci. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. C'est pas que c'est surprenant. On entend cela, on dit non, c'est dans l'autre sens. C'est les amis qui nous font des baisers et c'est les ennemis qui nous font des blessures. Non, en fait, lorsque un ami nous dit quelque chose qui est peut-être blessant, parce que ça nous dérange, mais c'est vrai, ça prouve que c'est vraiment un ami. Un ami qui peut nous dire la vérité. Tandis que quelqu'un qui peut nous payer des compliments, ce n'est pas toujours très sincère. Alors nous avons besoin de ce genre d'ami qui peut être honnête avec nous, qui peut nous dire, là tu es allé un peu loin, ou ah, tu devrais être un peu plus comme ceci, comme cela. Vous allez écouter ces amis, vos amis, beaucoup plus que vous allez écouter un simple membre d'église qui essaie de dire, oh, ouais, je pense que tu devrais faire ceci ou faire cela. Généralement, les amis d'église, on est bienveillants les uns envers les autres, on se dit des bonnes choses, on s'encourage. Mais il faut des amis en plus, des amis chrétiens qui sont prêts à dire, mon ami, il faut que je te dise ça. Là, il y a un souci, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est nécessaire. Eux pourront nous aiguiller vers la sagesse. Alors nous devons aussi réfléchir par rapport à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts à être honnêtes vis-à-vis de nos amis ? On connaît leurs fautes, leurs défauts, on se connaît bien, n'est-ce pas, entre amis. Osons-nous leur dire, peut-être que tu ne vois pas ceci, mais je constate ça chez toi. Bien sûr, avec diplomatie, avec gentillesse, mais avec courage. On a besoin d'amis honnêtes. Et maintenant, j'aimerais arriver au dernier volet, l'amitié avec les non-chrétiens. L'amitié avec les non-chrétiens. Elle n'est pas la communion fraternelle. Mais on a déjà vu que l'amitié n'est pas la communion fraternelle. C'est deux choses différentes. Certaines personnes vont dire, mais est-ce que c'est possible d'être ami avec des non-chrétiens ? Eh bien oui, nous pouvons avoir des amis non-chrétiens. Alors je sais que Jacques dit, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Mais en disant cela, il critique ce que nous recherchons, l'approbation du monde, ou le style de vie du monde, qui est sans Dieu. Mais il n'est pas en train de critiquer l'idée d'avoir des amis qui sont des gens du monde. Jésus dira même, faites-vous des amis avec les richesses injustes, en Luc 16, verset 9. En étant généreux avec notre argent, on peut se faire des amis. D'ailleurs, l'amitié qu'on a caractérisée de fidèle et honnête est quelque chose que les non-chrétiens recherchent aussi. Ils ont envie qu'on soit des amis fidèles et honnêtes envers eux. Ça va être quelque chose qu'ils apprécient. C'est tout à fait possible, donc, entre un chrétien et un non-chrétien. Mais là où nous devons faire attention, c'est au niveau de l'influence. Parce que oui, nous pouvons influencer les amis non-chrétiens, mais eux peuvent aussi nous influencer. Ça va dans les deux sens, n'est-ce pas ? Et notre dernier verset le dit bien, Proverbe 12, verset 26. « Le juste apprend de son prochain, mais la voie qu'empruntent les méchants les égare. » Et donc on doit avoir suffisamment de discernement pour dire est-ce que c'est la bonne voie, est-ce que je veux apprendre à être comme lui ? Ou est-ce qu'il est sur la mauvaise voie et je ne veux pas être influencé par lui ? Il y a beaucoup de mises en garde dans le livre des Proverbes. Ne fréquente pas un homme colérique, parce que tu vas devenir comme lui. Le psaume 1er dit ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs, parce qu'en compagnie des moqueurs, on va commencer à se moquer de Dieu. Nous voulons éviter cela. Attention à ne pas être trop proche, car nous finirons par les ressembler. Bien entendu, il y a des non-chrétiens qui sont sobres, qui sont intelligents, qui sont disciplinés, qui sont des travailleurs, qui sont respectueux des autres. Ça, c'est la grâce commune. Dieu a fait grâce au monde pour que dans le monde, même si les gens ne le connaissent pas, ils puissent connaître cette grâce de Dieu et avoir le caractère que Dieu veut. Mais les non-chrétiens peuvent aussi être orgueilleux, sarcastiques, buveurs, moqueurs, etc. Et je pense que dans toute relation avec les non-chrétiens, il y aura un moment où nous sentons la différence entre nous et nos amis non-chrétiens. Même des amis de longue date, même des gens avec qui on aime bien faire du jardinage ou du sport ou de la photo, mais on se dit à un moment, moi j'aime le Seigneur, mais lui n'aime pas le Seigneur. Moi j'aime la Bible, mais elle n'aime pas la Bible. Et donc nos amitiés sont toujours limitées, même chez ceux que nous apprécions. On peut être amis, mais on ne peut pas avoir la même profondeur de relation qu'on peut avoir entre deux personnes qui connaissent le Seigneur. Quand Alphonse rencontre Betty, il peut penser qu'elle a tout pour être son amie. Mais si Alphonse et Betty ne sont pas tous les deux des croyants en Christ, quelle sera leur relation ? Elle peut être chaleureuse, remplie d'amitié, mais elle sera limitée. Parce qu'il y a tant de gens qui ont fait l'expérience, on peut s'informer par rapport à cela, le malheur que ça provoque lorsqu'on sent qu'il y a en fait deux destinées, deux appartenances, deux amours, l'amour pour Christ ou l'amour pour le monde. Alors ne soyons pas extrémistes dans l'autre sens. Si tu penses, alors je ne vais pas avoir d'amis non chrétiens, il ne faut avoir aucun ami non chrétien, alors il faut écouter attentivement. Ici je parle d'amitié non romantique, n'est-ce pas ? Mais il y a une bonne raison de nous faire des amis parmi les gens du monde, comme on les appelle, les gens ordinaires, les gens qui nous entourent. Et la raison, c'est pour leur dire la bonne nouvelle du salut. Tu es le mieux placé pour être ami avec certaines personnes. Et donc, tu es la mieux placée pour leur dire la bonne nouvelle qu'ils écouteront quand tu leur parles, mais qu'ils n'entendront pas quand je leur parle. La bonne nouvelle de Christ. Tes collègues peuvent devenir des amis. Tes voisins peuvent devenir des amis. Des gens que tu ne connais pas encore très bien pour le moment peuvent devenir des amis proches. Et dans cette amitié, si tu t'investis dans la relation, il y a moyen de parler de Jésus-Christ avec ces personnes qui ne le connaissent pas encore. Et quelqu'un pourrait être un peu mal à l'aise avec ça, en pensant que c'est pas très sincère. Je pensais que tu voulais être mon ami, et puis maintenant, tu veux me parler de Dieu et de Jésus. Mais à cela, je réponds, n'est-ce pas la meilleure chose que nous pouvons faire ? N'est-ce pas le plus grand amour que nous pouvons avoir pour quelqu'un que de donner à nos amis la clé de la vie éternelle ? Que peut-on faire de mieux pour nos amis, si ce n'est pas leur présenter le Fils de Dieu, afin que eux deviennent à leur tour amis de notre ami, le Seigneur Jésus ? Donc faisons des amis avec des chrétiens. Investissons-nous dans le temps, dans l'écoute de l'autre, dans la relation, nous inviter les uns les autres. Essayons de chercher comment on peut être meilleur ami ou ami avec plus de personnes. La fidélité, l'honnêteté, des choses à développer, à cultiver dans nos amitiés. Mais aussi cherchons à être amis avec des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, afin que dans l'amour du prochain, on puisse communiquer simplement, honnêtement, la bonne nouvelle du salut. Prions ensemble. Seigneur Dieu, oui, nous avons besoin d'amis. Nous te remercions pour ceux et celles que nous avons jusque-là. Merci que tu les as placés dans notre vie. Et fortifie-nous, Seigneur, pour être de meilleurs amis. Que nous puissions être marqués par l'amour que tu as déversé dans nos cœurs et prêts à faire de toi notre préoccupation principal, pas de plaire aux gens, mais en cherchant à te plaire, à vivre aussi ce domaine de notre vie, sous ton regard et dans ta volonté. Au nom de Jésus, notre ami suprême. Amen.